C'est pas exact, puisqu'on a déjà commencé, il y a déjà un bon moment, mais on est en train d'essayer de synthétiser la problématique. Donc, Avatar. Qui est Avatar? Avatar est un collectif fondé en 92-93, légalement en 93, mais dans les faits actifs depuis 92, et qui s'intéresse à l'art audio et à l'art électronique. L'art audio voulant dire la création sonore quand elle sort des cadres de ce qui s'appelle la musique, et ça c'est très local, en fait c'est presque municipal, c'est presque, ça change les, c'est des termes qui changent de sens d'une rue à l'autre presque. Et l'art électronique, ben, c'est un chapeau assez large pour nous permettre de faire ce qu'on veut, en gros. Depuis 1993, bon, on s'est doté de lieux, on a des locaux, on a des équipements, on a des studios, et on organise des activités artistiques qui vont des débuts des projets jusqu'à la diffusion finale des projets. Donc, parfois, on invite des gens parce que c'est des artistes qui nous intéressent, qui sont pas nécessairement des artistes audio, pas nécessairement des artistes d'art électronique, mais simplement des gens qui nous intéressent. Et puis, on tente de monter des projets avec eux. Parfois, on invente les projets et on invite les artistes pour qu'ils viennent travailler dans un cadre conceptuel que nous avons défini. Parfois, on donne carte blanche à l'artiste. Un peu plus loin dans le processus, on reçoit aussi des propositions d'artistes qu'on va essayer d'aider à réaliser, ce qui peut vouloir dire créer des logiciels, ce qui peut vouloir dire créer du hardware. Alors, on va faire ça. Et on va se rendre jusqu'à la diffusion des projets. Alors, parfois on fait qu'un bout en résidence avec l'artiste, et puis on crée une partie du projet, le projet s'en va ailleurs, l'artiste le termine ailleurs. Parfois, c'est le processus au complet. On se rend jusqu'en salle, on se rend jusqu'en conférence, on se rend jusqu'en publication. On a un label sur lequel on publie des travaux ou des écrits critiques. Et voilà, donc, ça fait l'ensemble du spectre. Avatar fait partie, comme le disait Jérôme, de cette pieuvre qui s'appelle Méduse. Donc, Méduse, c'est un centre, c'est un grand bâtiment, et c'est une coopérative. Donc, Avatar est un organisme sans but lucratif, je ne sais pas comment vous appelez ça selon vos lois à vous, et qui fait partie d'une coopérative qui est elle aussi sans but lucratif, qui est propriétaire d'un grand bâtiment. C'est un bâtiment assez important qui a coûté une douzaine de millions de dollars, donc une dizaine de millions d'euros, et qui regroupe 10 centres qui travaillent dans des disciplines différentes. Donc, il y a un centre qui s'occupe de photographie, il y a un centre qui s'occupe de cinéma, il y a un centre qui s'occupe de vidéo, il y a un groupe de théâtre de recherche, etc., etc. Et ces gens-là, étant tous dans le même bâtiment, partageant le même genre de philosophie, se permettent de partager soit des expertises, des équipements, des locaux, des ressources diverses. Et il y a aussi quelques équipements partagés, c'est-à-dire des grandes salles qui sont accessibles à chacun des organismes. Donc, voilà pour Avatar. Le problème particulier, le projet particulier, c'est devenu un projet, s'appelle Métamédia. Et c'est le déclencheur de ce projet-là, c'est celui-là. Je ne sais pas si c'est lisible, oui. C'est en anglais, fait que je vais vous faire une petite traduction libre pour ceux qui ont de la difficulté avec l'anglais. Je vais d'abord trouver ma copie. Donc, c'est une citation de Lev Manovitch. Le plus grand film d'avant-garde est du logiciel comme Final Cut Pro ou After Effects, qui contiennent les possibilités de combiner ensemble des milliers de pistes séparées dans une seule movie, dans un seul film, et aussi d'établir les relations entre toutes ces différentes pistes. Ce qui permet de développer l'idée d'avant-garde du film comme partition abstraite visuelle jusqu'à sa finalité, jusqu'à l'extrême et même plus loin. Ce qui veut dire que les programmeurs qui ont inventé ces technologies, et ils les nomment, sont les artistes importants de notre temps. Et peut-être les seuls artistes qui sont vraiment importants et dont on se souviendra de cette période-ci. Ce qui est assez polémique comme énoncé, ce qui est très discutable, mais qui provoque une certaine discussion. Et en même temps, il n'y a pas tout à fait tort, il faut le reconnaître. Si vous entrez dans un magasin de disques, c'est toujours la partie qui me frappe, moi. On rentre dans un magasin de disques, ce qu'on voit, c'est Photoshop et Illustrator ou Quark Express. On voit le logiciel dans les pochettes. Donc, c'est pas transparent, c'est pas des outils complètement transparents. La même chose pour les voitures. Je ne sais pas ici, évidemment, je ne connais pas vos Citroën, vos Renault, vos Peugeot. Mais je me souviens quand autour de 97, quand les voitures américaines ont changé tout d'un coup. Les modèles de voitures américaines ont changé comme ça. En 3 ans, tout avait changé. J'avais une amie qui disait, en voyant les voitures, Alias Technologie. Elle était capable de voir quel logiciel était utilisé pour le design de la voiture, puisque ce logiciel particulier permettait, par exemple, des formes à deux courbures facilement. Alors, on pouvait voir l'impact des logiciels dans les formes qu'on créait. Ce qui nous mène à un second extrait de Lev Manovitch, que je n'ai pas ici sur cette présentation-là. Mais en fait, je vais vous donner les trois zones dans lesquelles on s'est posé des questions. Puis ensuite, ça va finir par donner un projet, vous allez voir. Bon, je vous le lis en anglais d'abord. The new avant-garde is no longer concerned with seeing or representing the world in new ways, but rather with accessing and using in new ways previously accumulated media. In this respect, new media is post-media or meta-media, as it uses old media as its primary material. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la nouvelle avant-garde n'est plus concernée ou préoccupée à voir et à représenter le monde de nouvelles façons, mais plutôt à avoir accès et à utiliser de nouvelles façons les médias accumulés précédemment. Dans cette idée-là, les nouveaux médias sont plutôt post-médias ou métamédias, dans le sens qu'ils utilisent les vieux médias comme matériel de base. Il y a donc là, encore une fois, une espèce d'hybridation ou de nivellement jusqu'à un certain point de la notion d'auteur. Dans ce cas-ci. De la même façon qu'on peut voir Photoshop dans la pochette de Eminem, mais de la même façon, on peut voir le nouveau matériel réutilisé. L'exemple classique, le plus facile, c'est les DJs qui réutilisent des matériaux existants, même si ça se fait avec ce qu'on appelle en design l'inertie des formes désuètes. Et oui, l'inertie des formes désuètes. Je vais vous faire une petite parenthèse. Je vais faire des parenthèses comme ça de temps en temps. L'inertie des formes désuètes, c'est un drôle de concept en design. C'est ce qui fait que les premières automobiles, si on revient aux automobiles, avaient l'air des carrioles pour les chevaux. Parce que ça en était. C'est-à-dire que pour les premières voitures, on a enlevé le cheval, on a mis un moteur. Un jour, on s'est rendu compte que ce n'était pas la forme idéale, on a changé la forme. La même chose avec les cravates. Les cravates, c'était là avant que les boutons existent. Ça tenait le col de la chemise fermée. Puis un jour, on a inventé les boutons, on a oublié d'enlever les cravates. C'est ce qu'on appelle l'inertie des formes désuètes. Fin de la parenthèse. Donc, pour le déclencheur, ça c'est Manovitch avec ses idées de bêta-média à lui. Et de l'influence du logiciel sur la forme artistique. Un deuxième point de vue. Il y a eu dans les années, mi-années 50 jusqu'à la fin des années 60, ce qui me semble être l'énoncé de deux utopies convergentes, deux projets sociaux convergents. D'abord, d'un côté, Vannevar Bush. Plusieurs d'entre vous le connaissent, je vais résumer un peu sa situation. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les États-Unis ont commencé à se dire qu'ils ne pourraient pas éviter de s'impliquer dans la Deuxième Guerre mondiale, le président américain a contacté Vannevar Bush. Vannevar Bush était un ingénieur qui avait conçu des calculatrices, qui était reconnu dans son milieu. Et puis, le président américain l'a contacté pour voir comment l'effort scientifique américain pourrait s'intégrer dans l'effort de guerre américain. Et Bush, bon, on résume, puis on en fait un héros, c'est sûr, on caractérise le personnage, mais en gros, ce qui s'est passé, il a dit, OK, laisse-moi ce bout-là, je m'en occupe, et c'est dans la coordination de l'effort de guerre, de la recherche scientifique, de l'industrie et de la défense américaine que s'est réalisée l'implication scientifique américaine dans la Deuxième Guerre. Et c'est ce qui a donné la structure économique américaine actuelle. C'est-à-dire que cette triade-là est encore la triade fondamentale du fonctionnement économique américain. Il y a la recherche qui se fait dans les grandes universités, l'impact qui se fait, qui est subventionné par la défense, et ça fonctionne comme ça, et l'industrie qui fonctionne aussi comme un autre pôle de cette triade-là, et c'est comme ça que les idées, les argents et le pouvoir économique et politique américain se maintient. Donc, Vannevar Bush avait permis ce moteur-là pendant la Deuxième Guerre. À la fin de la Deuxième Guerre, donc, il s'est retrouvé dans une position idéale. Il était reconnu par ses pairs, il était reconnu par la politique américaine, il était reconnu par l'industrie américaine. Et il s'est dit, bon, c'est quoi la prochaine étape? Et comme ça, il a rêvé de la prochaine étape. Et sa prochaine étape, selon lui, c'était principalement de rendre l'information disponible à tout le monde en temps réel. Le principal problème qu'il avait vu pendant la Deuxième Guerre, pendant l'effort de guerre américain, c'était de connecter les scientifiques ensemble. Un faisait une recherche sur un département chimique, l'autre faisait une recherche dans un département physique, l'autre faisait une recherche dans un département biologique. Et avant que ces gens-là puissent partager leurs informations, puis arriver avec un outil, une arme qui était efficace, comment on faisait pour les faire se rencontrer, comment on faisait pour avoir connaissance des recherches des autres. Donc, il avait rêvé d'une série de trucs, mais principalement, il avait nommé ce problème-là. Donc, il avait écrit un article qu'on peut trouver sur le web qui s'appelle « As We May Think », qui est un résumé des 50 années qui ont suivi, ou des 60 années qui ont suivi. On est encore dans ce projet-là. En fait, on essaie encore de répondre à ces questions-là, de réaliser ce rêve-là. Alors, il avait rêvé d'une série d'outils, comme cette espèce de caméra qu'on portait, qui nous permettait, selon notre volonté, d'enregistrer des documents pour les rendre disponibles. Il y avait cet autre truc dans lequel on pouvait parler, qui répondait à notre voix, ce qu'on est en train de faire, qui pouvait traduire en texte directement ce qu'on disait, ce qu'on est en train de faire. Et il y avait cet autre truc qui est ce qu'on appelle un desktop sur un ordinateur, qui était en fait la métaphore qui a mené à toute notre informatique portable. Donc, l'idée d'accumuler toute l'information dans ce qu'on n'appelait pas des disques durs, ce qui ressemble à des tiroirs, de pouvoir y accéder facilement, etc., etc. Et il y avait en parallèle ce qui me semble être une utopie convergente. Il y avait ce projet scientifique, commercial, industriel. Il y avait un projet social de l'autre côté. C'est un des trucs, un des collages de Guy Debord. Donc, c'est ce que j'appelle le projet situationniste large. Donc, il y avait le groupe situationniste qui est souvent vu comme, ou perçu, ou identifié comme un mouvement particulier avec des acteurs particuliers, Van Engem, Debord, etc., etc. Mais dans les faits, c'était un mouvement très large qui était présent dans plein de pratiques artistiques différentes. Si on regarde le dessin de collage de Guy Debord, la parenté est assez évidente, quoiqu'à l'époque, ces gens-là ne se parlaient pas, mais la parenté est assez évidente. Il y a une série de cartographies, et le projet, c'est de connecter ces géographies-là. C'est la connexion qui est le projet principal. On voulait que les gens puissent se balader dans la ville et établir leur propre connexion. Donc, ça a eu un effet, et pas quand je dis ça a eu un effet, c'est pas nécessairement que les écrits situationnistes ont eu un effet sur d'autres gens, mais ces idées-là étaient présentes dans les années 60, fin des années 50, début des années 60. Ça, c'est un projet d'un groupe d'architectes italiens qui s'appelait Archizum. Ça s'appelait Non-Stop City. Alors, c'est jusqu'à un certain point, le projet d'architecture moderne du début du siècle poussait à l'extrême. On a une zone libre dans laquelle on peut établir les espaces qu'on veut avec les connexions qu'on veut. C'est un plan donc de cet espace-là. Il y avait le groupe Archigram autour de Peter Cook à Londres qui faisait une autre représentation d'un autre aspect du même rêve, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir l'information qui est connectable et les gens qui se promènent comme ça dans la ville, c'était la ville au complet qui se promenait. Alors, encore là, il y a plusieurs idées dans ça. Il y a l'idée de la mobilité des gens, la mobilité de l'information, et jusqu'à un certain point aussi, la redite, la réaffirmation d'une utopie passée, d'une utopie qui vient de la Renaissance, qui disait, qui avait fait disparaître jusqu'à un certain point l'idée de lieu. Alors, ce n'est pas vraiment l'ubiquité, puisque l'ubiquité, c'est plus l'idée d'être partout, mais c'est l'idée que c'est un peu l'idée du nulle part, en fait. Qu'être ici ou être ailleurs, c'est la même chose. Et il y avait un autre groupe qui s'appelait Super Studio, un autre groupe italien, qui faisait des représentations qui sont alors là vraiment très près de ce qu'on est en train d'essayer de réaliser. Une grille anonyme, cette espèce de grille de mondialisation, des accès réseau, et dans cette représentation-ci, en fait, c'est un peu difficile à voir à l'écran, dans leur représentation, ce qu'ils faisaient souvent, ces gens-là, ils faisaient des maquettes, et ils faisaient ça comme... En fait, c'est intéressant de le regarder maintenant, parce qu'on voit des choses qu'on ne pouvait pas voir à l'époque, mais ils faisaient des maquettes, et pour illustrer l'étendue, l'universalité, en fait, du modèle qu'ils proposaient, ils utilisaient des miroirs et des grilles cartésiennes comme ça, des grilles orthogonales. Ce qui fait qu'en fait, pour nous, on voit à la fois une représentation de la réalité du réseau et une représentation de la virtualité du monde projeté. Puisque dans ce miroir-là, qui répétait ce monde-là à l'infini, on avait cette espèce d'image du monde réel répétée et qui se déformait tranquillement avec l'usage des miroirs. Ce qui est intéressant de Super Studio, contrairement à d'autres, je trouve, personnellement, c'est qu'il y avait aussi une critique à l'intérieur du projet. Alors, on proposait une organisation du monde, on proposait une mobilité des gens, puisque être ici ou être là, c'est la même chose. Et on supposait une certaine liberté. Donc, n'importe qui pouvait être comme ça, à l'intérieur du réseau, heureux, petite cellule familiale, les gens nus, complètement libres, etc. Sauf qu'il y avait aussi une ironie dans ça. Il voyait très bien la disparition des libertés individuelles qui accompagnent un projet comme celui-là. Si on revient aux situationnistes eux-mêmes, il y avait Constant qui faisait partie du groupe, qui était l'architecte des situationnistes et qui avait son projet de Nouvelle Babylone. Alors, il voyait une ville infinie qui couvrait le globe au complet, dans laquelle on pouvait... se promener à l'infini, on avait des surprises à chaque détour. Cette ville-là pouvait se reconstruire constamment, donc même si on repassait au même endroit, on pouvait avoir une surprise la fois suivante. Il y avait une espèce de plan comme ça où on voyait le truc s'en aller. Alors c'était le rêve, encore une fois, la liberté complète. On peut aller n'importe où, on peut être complètement nomade, on peut avoir des surprises à chaque fois, on peut renouveler notre perception du monde, etc., etc. Sauf que bon, c'était le rêve à l'époque. Si on le regarde maintenant, je ne sais pas en France, mais en Amérique du Nord, ça ressemble à un shopping mall. Hein? C'est exactement la même chose. Et puis, dans nos shopping malls, je ne sais pas chez vous comment ça se passe encore une fois, mais effectivement, les lieux se renouvellent à peu près aux 3 mois. La boutique qui était au coin là est rendue au coin là-bas, et celle-là qui était une bijouterie est devenue une boucherie. Et ils avaient fait un espèce de petit café au centre, et c'est devenu un vendeur de magazines, etc. À l'intérieur de cette utopie-là, il y a aussi les germes de certains aspects de notre société qui ne nous plaisent pas nécessairement. Super Studio allait très loin dans l'illustration de ces choses-là. Et j'ai découvert ce matin, c'est drôle, hein, en lisant autre chose complètement, qu'il y avait des modèles anciens aussi, parce qu'eux, ils appelaient ça la douce tyrannie, ce genre d'uniformisation-là. C'est-à-dire que c'est une démocratisation extrême de l'accès à l'information, de l'accès à l'architecture, de l'accès à la structure sociale, avec la tyrannie qui va avec. Et c'est difficile d'expliquer cette tyrannie-là. En fait, il y a eu un exemple hier, je ne sais pas si vous vous souvenez de la... Il y a eu plein de questions hier, il y a eu un commentaire, quelqu'un qui s'est annoncé en disant « c'est un commentaire », et c'était suite à la présentation de François Parra, et il y a quelqu'un qui a dit « tu sais, avec une basse, ça serait génial, hein? » Et il y a avec l'ouverture, avec la démocratisation des accès, des outils, semble accompagner une dictature esthétique. C'est-à-dire que depuis la fin des années 60 et avec la convergence des deux projets, c'est-à-dire le projet industriel scientifique de Vannevar Bush, disons, et celui des situationnistes larges des années 60. Dans cette convergence-là, il y a une profusion maintenant de nouveaux outils de composition qui sont soit logiciels, soit hardware, etc., et en même temps une standardisation extrême de l'esthétique permise ou de l'esthétique qu'on se permet à l'intérieur de ces cadres-là. Alors qu'on devrait avoir une profusion de directions esthétiques, la première chose qu'on fait, c'est s'il y avait une basse et une batterie, ça serait génial. On ramène ça dans un canal très standardisé. Une des illustrations de Super Studio encore que je trouve vraiment intéressante, puisque, encore là, on a ce réseau-là qui est appliqué sur la planète, et en même temps, les deux personnages qu'on voit sont anonymes. Et c'est ça l'exemple que j'ai trouvé ce matin en déjeunant. C'est Gutenberg, ce type-là. 1450. Et c'est drôle de voir que c'est une tyrannie, cette démocratisation-là, qui est difficile à refuser, qui est difficile à critiquer. Si on regarde, ça c'est son premier truc. Est-ce que j'en ai un autre? Non, j'ai juste celui-là. Donc, bon, il y a eu d'autres projets d'imprimerie avant Gutenberg, mais Gutenberg, un des trucs qui est intéressant, c'est que c'est le premier, en fait, c'est un des premiers projets qu'on peut qualifier de capitaliste. Son entreprise a été supportée par des investisseurs qui n'étaient pas intéressés dans l'imprimerie, qui voyaient la possibilité d'investir des sous et de récupérer des sous. Donc, il y a une espèce d'anonymat dans l'investissement dans le projet. Et il y a aussi un anonymat dans le résultat. C'est-à-dire que jusqu'à cette époque-là, tous les livres, parce qu'il y en avait des livres qui circulaient, mais ils étaient copiés à la main. Ce qui faisait que chaque livre, et on parlait d'un livre, ben, en tout cas, là, il faut jouer sur les mots puis voir qu'est-ce qu'on veut dire avec quel mot, mais on parlait vraiment d'écrit. À chaque fois, le texte était interprété. Quand vous écrivez un mot et vous dites « L'école d'Aix-en-Provence est formidable », vous pouvez écrire formidable en écrivant un petit peu plus gros et ça se voit. Ou vous pouvez l'écrire vraiment tout petit et c'est autre chose et ça se voit aussi. Alors, chaque livre était une interprétation du texte. L'information recirculait, était retransformée, n'était jamais stable, était toujours remise en question. Évidemment, personne maintenant ira critiquer le fait que tout le monde peut lire, que tout le monde peut avoir accès aux livres, que tout le monde peut avoir accès à cette information-là. Sauf que l'information est figée et standardisée. Et elle vient avec cette tyrannie-là. Donc, c'est le deuxième volet qui finit par faire quelque chose dans 10 minutes. Le troisième volet, est plus près de la notion de droit d'auteur. Ma réflexion à moi vient principalement d'un livre de Bernard Edelman qui s'appelle « Le sacre de l'auteur ». Et Edelman, dans ce livre-là, explique que la notion d'auteur date à peu près de la même époque. En fait, à un certain moment, il se permet d'écrire une date précise, 1684, mais dans les faits, entre 1500 et 1700, c'est là qu'apparaît la notion d'auteur. Jusque-là, quelqu'un qui écrit, c'est quelqu'un qui réécrit des choses que l'on sait déjà. Il y a des extraits d'enseignements d'un maître à un élève qui sont assez intéressants et assez clairs. Écoute, n'essaie pas d'amener ta propre idée dans un texte. S'il y a quelque chose dont on n'a pas besoin, c'est ça. Ce qu'on veut, c'est que tu rendes la tradition de manière plus claire. Ultimement, de manière plus claire, ça veut aussi dire... regarde les choses et redis-les pour qu'on comprenne. Donc, redis-les à travers tes propres idées. Mais le concept de base est très différent. Le concept, c'est on a une connaissance partagée et c'est cette connaissance-là qu'on te demande de nous redonner pour qu'on la comprenne mieux, pour qu'on la voie mieux, qu'on la voie sous un autre angle. Donc, il n'y a pas de propriété du projet. Le projet est collectif. D'ailleurs, jusqu'à très tard... le texte, parce qu'il y a quand même une industrie de l'écriture, il y a quand même un commerce de l'écrit, le texte, c'est le papier sur lequel c'est écrit. Alors ça, c'est le texte. Si je te donne le texte, c'est ta propriété maintenant, je te l'ai donné. Il n'y a pas cette idée-là de l'œuvre séparée de l'écrit même, qui pourrait à ce moment-là devenir la propriété intellectuelle de quelqu'un, duquel quelqu'un pourrait réclamer la propriété. Ça n'existe pas jusqu'à 1500 environ, cette idée-là. Donc, jusqu'à 1500, 1600, cette idée-là n'existe pas. Il y a un autre concept qui accompagne cette idée-là, qui est, disons, qui est un mythe fondateur jusqu'à un certain point. Les sociétés sont souvent, je pense toujours, mais c'est une autre histoire, basées sur des espèces de mythes fondateurs. Un des mythes fondateurs de l'époque, c'est que la fin du monde s'en vient. Ça ne sert à rien de s'énerver, la fin du monde s'en vient. Le royaume des cieux, il est promis, hein? Le bon Dieu revient, là, c'est au détour. Peut-être le mois prochain, peut-être l'an prochain, mais c'est clair, ça s'en vient. Donc, il n'y a pas d'intérêt à une propriété personnelle d'une information. La fin du monde s'en vient. À quoi bon? 1500, 1600, cette idée-là change. La chrétienté perd un peu son emprise, l'esprit scientifique émerge tranquillement, et on se rend compte que peut-être que ça va durer pas mal plus longtemps qu'on pensait. Donc, il y a une espèce de désir ou d'espoir de pérennité qui fait que c'est peut-être intéressant, finalement, d'attacher son nom à une œuvre et puis d'essayer d'en profiter, soit par la gloire, soit par le commerce, etc., pendant un bon bout de temps. Donc, il y a cette association-là, à ce moment-là, entre l'idée d'une pérennité et l'idée d'un droit d'auteur. Donc, la naissance de l'idée d'auteur, la naissance des droits qui vont avec. Et si on revient juste avant notre utopie, nos deux utopies convergentes, jusqu'à donc la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qui se passe à la Deuxième Guerre mondiale? Ce rêve-là s'effondre. La première bombe atomique, qui est un événement symbolique important, qui dit ça se peut que la fin du monde soit au détour. En fait, c'est fort possible. Et la conscience écologique, fin des années 60, la même chose. Le territoire est fermé. Il est contenu, il n'est pas éternel, il n'est pas infini. On a vu la sphère au complet, ça achève. Et, curieusement, en même temps, une relative dissolution de l'idée de droit d'auteur, la réaffirmation par les situationnistes d'une idée ancienne qui était le plagiat est nécessaire à la création. Il n'y a pas de création sans plagiat, c'est la base même. Il faut reprendre l'information commune, la remâcher, la redire, et c'est ça l'essentiel de la culture. Donc, on revient à une espèce de notion commune de l'information, une destruction de la notion de droit d'auteur, et jusqu'à un certain point, une destruction de la notion d'artiste individuel. Donc, c'est là qu'on en arrive avec un projet. Il y a une question qu'on a posée, une série de questions, en fait. Comment s'articule l'anonymat grandissant de l'artiste dans un contexte comme celui qu'on vient de décrire? D'autant plus qu'on parle d'un travail qui se fait en parallèle avec des corporations qui fabriquent les outils qui le rendent possible, ce travail-là. Alors, il y a cette idée, qui est jusqu'à un certain point une utopie, non pas une dystopie, de pouvoir échanger ouvertement la création, les informations, les projets, et il y a en même temps cette espèce de parce qu'il y a un combat, qu'il faut bien reconnaître, entre les corporations qui rendent ces outils possibles et qui, en même temps, ces corporations, dictent les codes esthétiques qui vont avec le projet. Quelles nouvelles pratiques peuvent émerger dans un tel contexte? Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre l'érosion des libertés individuelles que nous vivons actuellement et le nivellement de la notion d'auteur par les réseaux électroniques qui permettent une distribution anonyme de tout document numérisable? Est-ce qu'il n'y a pas un lien direct avec une société où il y a une dissolution du sujet? Il y a plusieurs travaux actuels qui montrent à quel point un individu, ça existe de moins en moins. Si vous faites partie du groupe des anciens combattants, le groupe des femmes battues, le groupe des alcooliques anonymes, le groupe des amateurs de football de Nantes, vous pouvez nommer le groupe que vous voudrez, ça a une existence sociale. Les individus ont de moins en moins d'intérêt pour l'organisation sociale actuelle. Donc, ce qui nous mène à notre projet... Avatar, on a l'intention de travailler, on a un peu commencé, et je vais vous montrer quelques travaux, mais on a donc décidé d'étudier sur 3 ans ces questions-là. Et on le fait de 2 manières. La première manière, c'est une... En fait, c'est 2 manières, il n'y a pas une première et une deuxième, c'est 2 manières parallèles qui, on espère, vont se rencontrer, vont se multiplier. Il y a une première manière, donc, une façon qui est théorique, où pendant la prochaine année, on va faire une recherche de littérature, on va creuser la question d'une manière plus théorique, et on espère, en octobre ou novembre prochain, organiser un colloque réunissant des gens qui ont travaillé dans ces domaines-là, qui sont intéressés par ces domaines-là, qui ont réfléchi à ces domaines-là, autour de questions qu'on aura établies pendant cette première période de recherche. Donc, il y a une période qui est vraiment plus intellectuelle, d'observation, d'analyse, de synthèse de cette tendance-là. La deuxième étape de cette même façon-là d'aborder le projet, ça devrait être les actes du colloque publiés à l'hiver 2007, donc. Et la troisième étape reste à déterminer. On revient à l'autre manière d'aborder le projet. On aborde aussi en direct le projet de manière de pratique artistique. Donc, on invite des artistes, d'abord des artistes locaux, en deuxième étape des artistes nationaux, en troisième étape des artistes internationaux, à faire des projets dans cette idée-là. Donc, des projets, et il y a plusieurs manières d'aborder le problème, mais des projets où, jusqu'à un certain point, l'artiste accepte la disparition de son identité comme artiste, ou la disparition relative de ses droits sur un projet, ou la dissolution relative de sa participation à l'intérieur d'un projet qui est un processus. Toutes ces façons-là d'aborder une création comme celle-là. Donc, c'est ça, dans une première année, c'est plutôt des gens près d'Avatar. Mais plus le projet avance, plus on a l'intention d'inviter des gens de l'extérieur, des gens de différentes cultures, et aussi d'établir cette démarche-là en réseau avec d'autres centres qui partagent ces intérêts-là, jusqu'à créer un réseau de réflexion et de production artistique autour de ces questions-là. Je vais vous montrer quelques projets. T'as le droit. Oui. C'est bon. Ouais, on va faire avec ça. Bon, ben, je vais vous montrer 2 aspects d'un même projet. Ouais. Donc, c'est un projet de Georges Azaria. Georges Azaria est un artiste de Québec. C'est un avocat aussi. Et c'est la référence au Québec, pour ne pas dire au Canada, dans les droits d'auteur. C'est un spécialiste des droits d'auteur. Et il était très intéressé par cette démarche-là qu'on avait commencé à mettre sur pied. Et il est arrivé avec ce projet-là. Et il avait un grand sourire quand il est arrivé. Il est arrivé avec une idée. Le projet était réalisé au complet, c'est principalement le projet logiciel, on a travaillé là-dessus quelques semaines. Il l'a présenté en performance l'hiver dernier, et comme il dit lui-même, légalement, il n'y a rien à voir là-dedans. Légalement, il n'existe pas dans le projet. Il est arrivé avec une idée, on a analysé son idée, on a regardé comment on devrait la réaliser, on a demandé à notre principal technicien de la programmer, l'idée a été programmée. La machine est une machine très simple, qui mélange des fichiers audio existants. Et donc, il a choisi quelques fichiers. Et tout ce qu'il fait, il arrive en spectacle, en performance, et il fait play. Et la pièce se déroule, se reconstruit. Et le plus intéressant, c'est que l'outil donne des résultats complètement différents selon les personnes, parce que les fichiers qu'on choisit sont majeurs dans la pièce. En même temps, on se rend compte à chaque fois qu'il s'agit bien de la même pièce. Il y a une espèce d'ambiguïté là-dedans. Bon, je vais enlever ça de là pour que vous arrêtiez de regarder comment c'est fait. Hein. Puis éventuellement, ça va jouer. Oui, ça s'en vient. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais vous expliquer ce qui se passe, puis on va couper court. Donc, son premier titre s'appelait George Wash. Son deuxième titre, c'était La déchiqueteuse recolleuse. Le titre est en train de passer un troisième titre. Alors, simplement, ce que ça fait, ça prend un fichier. Imaginez que la tête de lecture prend le fichier et passe comme ça.
Like this and get a couple snorts.
Le logiciel dit, je choisis, bon d'abord je dis l'échantillon en combien de parties. On va déterminer combien de parties. Alors, on divise le fichier en 26 parties parce que j'ai choisi mes échantillons. Voilà. Ensuite, simplement, au hasard, il y a un échantillon qui est choisi. Alors, l'échantillon 17, la tête de lecture arrive, joue l'échantillon 17, c'est tout, et recommence. Alors là, il y a un deuxième échantillon qui est choisi, l'échantillon 8. Alors, il va jouer 8, 17, ensuite 8, 17, un autre, 24. Et comme ça, tranquillement, l'échantillon se reconstruit. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'il est très, très difficile de deviner ce qui va se passer au bout du compte quand l'échantillon va être complet. Celui-là a été fait par un autre artiste qui s'appelle Myriel Lehmann, et c'est un extrait d'un disque de Johnny Cash en spectacle où il est complètement ivre. Puis il explique qu'il y a des gens qui, dans la salle, qui pensent que quand ils sont dans leur douche, ils savent chanter. C'est une blague, cette pièce-là. Mais quand on l'entend, c'est cette espèce de langage curieux qui se construit. Une fois que l'échantillon est construit au complet et qu'il passe pour la première fois au complet, une des parties est remplacée par une partie d'un deuxième échantillon. Dans ce cas-ci, on ne se rendra pas là, mais il y a un échantillon d'un didgeridoo qui arrive à travers. Alors, Johnny Cash est en train de parler de ce qui apparaît à travers son langage comme si quelqu'un le censurait, mais ça devient un autre lieu complètement. Alors ça, c'est une espèce d'utilisation premier degré de cet outil-là. Donc, Georges Azaria a monté ce petit projet-là. Myriel Lehmann a fait cette première pièce. Mais Georges Azaria est revenu en studio chez nous. Il est en train de travailler, en fait, sur une nouvelle pièce avec cet outil-là. Et puis, je vais vous en faire entendre un petit bout, si ça a l'air à vouloir marcher. Hello. Eh bien, quelqu'un a déjà vu ça? Bon, on dirait bien que je ne pourrais pas vous en faire entendre un petit bout. Juste pour vous expliquer, donc, Georges Azaria est revenu en studio et il a pris son logiciel et il a commencé à composer quelque chose avec ça. Donc, au lieu simplement de mettre deux fichiers et d'avoir le résultat direct du processus, il s'en est servi comme un instrument. Il a généré des fichiers avec ça, fichiers qu'il a recomposés ensuite. Et ça donne un résultat complètement différent. Et un peu de la manière dont je parlais de Photoshop, le résultat est complètement différent comme atmosphère, comme impact, comme sentiment, comme émotion, mais on reconnaît l'outil. Alors, il y a cette espèce de... Ah, tiens. Ben, la première idée, c'est celle-là, c'est de rendre des outils disponibles en ligne et certains travaux qui vont avec ou qui ont été conçus avec aussi en ligne. Donc, de rendre tout ça perméable. Azaria lui-même ne travaille pas vraiment en performance, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Donc, son projet actuel, c'est un projet de publication sur CD. Mais c'est justement le projet, je pense, de ne pas savoir qui va en faire quoi, et d'abandonner cette chose-là relativement, de la regarder aller, de la regarder se développer. Jusqu'à un certain point, tu vois, quand Manovich disait « le vrai artiste, c'est le programmeur », tout ça, je pense que lui-même se laisse embarquer dans l'inertie des mots désuets qu'il critique lui-même. Tu sais, quand il dit parce que l'artiste lui-même, c'est une notion qui est en train de changer. Exactement. Exactement. Ouais, c'est la même identité au projet, tu sais, du créateur au projet, alors que je pense que c'est ça qui doit être questionné. Tout à fait.
En tout cas, ça fait partie d'un procès qui a beaucoup développé à travers ça. Oui, éventuellement, il y a autre chose. Et donc, en fait, il y a des couches successives après de qui est la performance de la chose. Enfin, effectivement, simplement, un programmeur qui a développé à un moment donné quelque chose, lui, il vient. La personne qui programme les zéro et un, donc c'est lui qui a utilisé.
Mais tu vois, je pense qu'une partie du projet, c'est d'assumer consciemment cet état des choses-là. Mais il y a une autre partie du projet aussi qui est de reconnaître disons que je caricature et que je parle avec des très grands mots, des mots très forts, mais la tyrannie corporative qu'il y a derrière, ces trucs-là sont aussi sur des Macintosh, et on ne parle pas d'un artisanat local, là. On parle d'une entreprise énorme qui impose des formats, qui impose des... Alors, il y a aussi un projet social qui doit être critiqué dans ça. Ouais. Mais tu vois, il y a déjà une grande différence, je suis d'accord avec la base, puisque oui, effectivement, n'importe quel outil que quelqu'un va créer va avoir un impact. Je veux dire, la vieille phrase, quand on a un marteau, tout commence à ressembler à un clou. Et évidemment, l'outil définit jusqu'à un certain point de pratique, mais une des grandes différences, par exemple, c'est qu'un luthier peut personnellement dire, écoutez, moi, je m'appelle Stradivarius, et il est hors de question qu'on ait ce genre de moyenne grave dans mes violons. Ce n'est pas intéressant, ces fréquences-là. Mais attends, laisse-moi terminer. Dans le cas dont on parle, 95% de la lutherie est déterminée non pas en fonction d'intérêt esthétique, mais en fonction d'intérêt économique dans ce qu'on appelle une démocratie capitaliste. Alors, la majorité des outils ne sont pas déterminés en fonction de leur intérêt de création, par exemple, mais en fonction d'un marché, par des gens, puis on revient au modèle Gutenberg, par des gens qui ne sont pas intéressés par l'imprimerie, qui sont intéressés par la circulation des devises. Donc, c'est un autre contexte dans lequel l'artiste se retrouve à créer. Bien, on revient à la remarque de Peter. Zicarelli, les 3-4 personnes qui étaient derrière ça, évidemment, c'était des créateurs qui avaient leur propre intérêt de création. Mais l'essentiel des outils sur lesquels ils devaient se baser pour créer leur propre intervention, leur propre mécanique, était prédéterminé par d'autres. Alors que même des luthiers actuels, comme l'arrivée, va choisir ses arbres dans la forêt. Mais Zicarelli n'a pas eu cette liberté-là. Il devait composer avec un truc qui a un clavier, qui a un écran, qui a une logique comme celle-là, un système d'opération comme celle-là, comme celui-là, et c'est là-dessus qu'il devait travailler. Non, il y a une différence fondamentale qui est la capacité individuelle de critiquer le modèle. Alors, un violoncelliste, un luthier qui fabrique des violoncelles peut se lever un matin et décider comme ça que les violons vont être les 2/3 du volume d'autrefois pour des raisons esthétiques. On ne peut pas remettre ça en question. C'est comme un agriculteur, je veux dire. C'est la même chose, prendre des grains brevetés ou prendre des grains qui ont poussé dans le champ, c'est la même chose. Tu les plantes, ils repoussent. Mais le tissu social qui sous-tend ces pratiques-là est complètement différent, et la position de l'artiste qui crée est complètement différente aussi. Le fait que les graines, que tous les grains maintenant sont brevetés et sont propriétés de corporations qui ont d'autres intérêts que l'agriculture, qui ont d'autres intérêts que de nourrir les gens, fait que le jeu social est complètement différent. Alors c'est la même chose dans ce domaine-là, que les gens mangent. Heureusement. Ben, heureusement. Là, ça devient un jugement de valeur.
Non, non, mais heureusement, dans le sens. On peut aussi avoir, on peut avoir un combat éthique.
Oui, tout à fait. Oui, oui. Mais c'est une discussion qu'on doit entreprendre dans les 3 prochaines années. Alors, on pose la question, est-ce qu'on a, par exemple, au bout de 3 ans, est-ce qu'on aura une position éthique devant ça? On verra. Mais je pense que c'est important à ce moment-ci de ne pas la poser. Jérôme a l'air de quelqu'un qui est sur le point de débrancher le micro.
Non.